Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons passer un certain nombre d'heures ensemble, jusque vers la fin janvier, donc c'est un assez long parcours d'anthropologie théologique. J'ai donné un titre, L'homme devant Dieu. Et vous venez de recevoir un polycopier avec beaucoup de notes, les notes du cours. Pourquoi je fais ça? Parce que pour que vous ayez, notamment les étrangers parmi nous, c'est toujours un peu difficile de prendre les notes, pour que vous ayez l'essentiel du cours, que vous puissiez suivre sans souci, et surtout peut-être écouter et suivre réellement un peu l'argumentation, le raisonnement que je vais vous proposer. Nous allons découvrir évidemment ensemble, je dirais, ce polycopier. Je peux déjà vous dire, vous avez un plan en début, après l'argument du cours que j'ai reproduit. Vous avez ensuite les notes, une longue bibliographie. Et ensuite, toute la deuxième partie, c'est l'ensemble des documents du cours. Donc, vous n'aurez pas besoin de les chercher. Voilà. Ce qui n'exclut pas, évidemment, que dans la bibliographie, il y a un certain nombre d'ouvrages que j'indique, pour que vous puissiez éventuellement lire tel ou tel livre en accompagnement du cours. Voilà, donc c'est un petit manuel, ce qu'on pourrait appeler un manuel, un traité que vous pouvez suivre avec ce polycopier. Alors, ce que j'ai à vous dire sur cette thématique, sur l'homme devant Dieu, se situe quelque part entre deux textes, un troisième. Et je vais commencer par là, de vous lire ces textes, de vous les commenter, deux textes bibliques et un texte de Pascal. Vous allez voir pourquoi. Ça sera donc un premier point où je propose un peu en miniature, si je puis dire, l'ensemble de ce qui va venir. Et le cours, l'introduction, une brève introduction, donc il y aura trois points essentiels que je vais vous proposer. Alors, le premier texte, c'est le psaume 8. Je vois quelqu'un qui arrive, bienvenue. Il y a un polycopier derrière. Voilà. Donc, je vous prie de ne pas prendre plusieurs exemplaires, parce que, évidemment, ça risque de priver d'autres. Alors, le premier texte, c'est le psaume 8, que vous connaissez tous. Donc c'est un psaume de louange avec le refrain qui est au début et qui est à la fin. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. Rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Avoir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur, tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Donc l'homme dans ce magnifique psaume que je vais un peu commenter est situé ici dans le monde qui va de la terre jusqu'aux cieux. Et le texte souligne très fortement le paradoxe prodigieux, je dirais la paradoxale disproportion entre la grandeur de l'univers et la petitesse de l'homme. Et c'est sans doute la première chose que l'homme biblique perçois. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci, à voir ton ciel, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Et on a à l'arrière-plan, évidemment, le premier récit de la Genèse. Alors, il me semble que l'homme moderne est devenu encore plus sensible, je dirais que le psalmiste a ce paradoxe, a cette paradoxale disproportion, parce qu'il a acquis un sens encore tout autre, je dirais, des dimensions de l'univers. C'est évidemment, je dirais, le résultat des sciences, les mutations de la cosmologie, les différentes mutations, la cosmologie classique du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, et la cosmologie contemporaine à partir des années 30 et ensuite après 40, etc. Voilà. Alors, il me semble que toujours Blaise Pascal indique bien, au fond, je dirais, cette mutation de la sensibilité moderne, cette célèbre méditation qu'il nous propose, je dirais, dans ses pensées, ses réflexions sur la situation de l'homme dans l'univers. On est à la fois encore très proche, je dirais, du psaume 8, de cette paradoxale disproportion, et en même temps, on est déjà tout à fait dans un univers moderne, et j'ai presque envie de dire contemporain. Sur l'essentiel, la méditation de Pascal n'a pas vieilli, bien évidemment. Alors, je vous l'ai donné dans le texte, dans les dossiers, à la fin. Donc, ça permet de commencer à découvrir un peu le polycopier. Vous avez une liste de tous les textes à la page 140 et à la page 141. Vous avez donc ce texte de Pascal sur la situation de l'homme dans l'univers dans l'édition Kaplan, qui est une des grandes éditions, parce que vous savez, les pensées de Pascal, c'est des fragments. Et les éditeurs disputent encore sur la meilleure ordonnance, au fond, de ces fragments. Alors, je vais vous lire quelques extraits pour que vous méditiez un peu ce texte chez vous. C'est vraiment une lecture spirituelle, pourrait-on dire. Voyez, si vous prenez à la page 152... Et on va retrouver après, un tout petit peu plus loin, déjà le psaume de nouveau que j'ai cité. Que l'homme contemple donc la nature, que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Donc c'est la page 152 dans votre dossier. La 142, mais dans l'édition de Pascal. Hein. Donc vous l'avez trouvé ? J'ai l'impression, oui, alors ça va. Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers. Que la terre lui paraisse comme un point au prix du vaste tour que cet astre décrit et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui que les astres qui roulent dans le firmament embrassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagination passe outre, vous voyez, c'est la faculté fondamentale de l'imagination, hein, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature de fournir. Tout ce monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'en approche. Nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces inimaginables, nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie dont le centre est partout. Sphère infinie dont le centre est partout, certainement pas la Terre. La circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perd dans cette pensée. Donc lui, comme le psalmiste, il fait évidemment intervenir Dieu. Que l'homme étant revenu à soi-même considère ce qu'il est au prix de ce qui est, qu'il se regarde comme égaré dans ce canton détourné de la nature, et que de ce petit cachot où il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, le royaume, les villes et soi-même, son juste prix, à son juste prix sans doute. Qu'est-ce qu'un homme dans l'infini? Mais pour lui présenter un autre prodige, aussi étonnant, qu'il recherche dans ceux qu'il connaît les choses les plus délicates, qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes. Que divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire là-dedans un abîme nouveau. Je veux lui peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci d'atomes. Qu'il y voit une infinité d'univers, dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, ont la même proportion que le monde visible. Dans cette terre des animaux et enfin des cirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné et trouvant encore dans les autres la même chose sans fin et sans repos qu'ils se perdent dans ces merveilles, aussi étonnantes dans leur petitesse que les autres par leur étendue. Car qui n'admira que notre corps qui tantôt n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible lui-même dans le sein du tout, soit y présent un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à l'égard du néant où l'on ne peut arriver. Qui se considère de la sorte, s'effrayera de soi-même et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée, entre ces deux abîmes de l'infini et du néant. Il tremblera dans la vue de ces merveilles. Et je crois que sa curiosité se changeant en admiration, il sera plus disposé à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, qu'est-ce que l'homme ? Voilà, le psalmiste revient. Qu'est-ce que l'homme dans la nature ? Alors ça, c'est le grand concept, évidemment, du XVIIe siècle. La nature, on est au début des Lumières, ce concept hérité du Moyen-Âge et de Cicéron à l'arrière-plan. Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Voilà donc, je redis, c'est une de ces très grandes méditations à l'aurore, je dirais, des temps modernes, admirablement bien écrit, une sorte, je dirais, d'expérience de l'imagination et de la pensée, on pourrait dire un exercice de méditation dans les traces même du psaume. Donc, il vaut mieux que vous refaites vous-même cet exercice en reméditant le texte, que je continue maintenant à le commenter en détail. Alors, je dirais simplement que la grande affaire, je dirais, de l'homme moderne, la grande affaire, pourrait-on dire, et contemporaine, n'est donc peut-être pas de croire ou de ne pas croire en l'existence de Dieu, ce qui est une question abstraite, mais c'est de croire ou de ne pas croire en un Dieu qui s'intéresse à cet être humain. Une fois qu'on a vu les dimensions, quand on en a pris conscience. Un Dieu qui s'intéresse à cet être humain, logé entre deux infinis, comme dit Pascal. C'est là où nous rejoignons sans peine le psalmiste, parce qu'on l'a peut-être pas tout de suite entendu quand je l'ai lu, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Tu le couronnes de gloire et de l'honneur. Donc c'est une question adressée, j'y reviendrai, à quelqu'un, voilà, et le problème n'est pas l'existence de Dieu. Mais l'intérêt, est-ce que nous pouvons croire que l'homme s'intéresse, que Dieu s'intéresse vraiment à cet homme perdu, comme dit Pascal, entre deux infinis? Il n'est pas étonnant du tout de constater que l'absence de la foi en un Dieu qui pourvoit, pour parler avec la Genèse, un Dieu qui s'intéresse à l'homme, un Dieu qui pourvoit. L'absence de cette foi dans l'anthropologie contemporaine, on va y revenir, profane, conduit tout naturellement vers l'idée de l'expérience de la mort de l'homme. C'est-à-dire, dans l'anthropologie contemporaine, c'est évidemment les deux dimensions d'infini qui reprennent leurs droits. Mais qu'est-ce qui tient l'homme au milieu de tout cela, comme dit Pascal? Si cette foi en Dieu disparaît. Et donc, Michel Foucault et d'autres parleront de la mort de l'homme. C'est-à-dire, la mort de Dieu, la mort de l'homme. Mais c'est pas, si vous voulez, je dirais un Dieu abstrait dont il est question ici, mais un Dieu qui s'intéresse à cet homme. Si cette foi disparaît, alors, voilà. Est-ce que peut y rester encore une foi, la foi en l'homme, ou qu'est-ce que c'est? La question va se poser. Alors ça, c'est, si vous voulez, je dirais les deux premiers textes, pour expliciter déjà un peu mon questionnement. Alors l'autre texte est tiré de la Passion selon saint Jean. Jean 19, 5, vous connaissez toute la scène, magnifiquement composée par le quatrième évangéliste. Au milieu du procès devant Pilate, Jésus vient à l'extérieur. Il portait la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Pilate leur dit à ceux qui sont présents, « Voici l'homme. Ecce homo. Voici l'homme. » Alors cet homme-là, je dirais, n'est pas couronné de gloire et d'honneur, comme dans le psaume 8. Mais il porte la couronne, il porte une couronne. C'est un homme couronné, royal, comme dit saint Jean. Il porte la couronne d'épines et le manteau de pourpre. C'est l'homme en situation de procès. Quel procès ? L'homme ridiculisé, soumis à la dérision, à l'humiliation par ses pairs. C'est au moins ça qu'on peut dire. Humilié par ses pairs. Et c'est sans doute, je dirais, la torture la pire qui peut arriver, c'est-à-dire quand on arrive, je dirais, non pas uniquement tuer physiquement un autre, mais de lui enlever son honneur d'être homme. Le contraste et la distance entre les deux textes, le psaume 8, commenté par Pascal, et ce texte du Nouveau Testament, du procès johannique, ne peut pas être plus grand. Et ceci ne nous empêche pas, évidemment, de les rapprocher et de les lire peut-être en sens inverse, je dirais même de les superposer, de lire le premier, le psaume 8, parce que la figure royale, l'être humain, figure royale, traverse la totalité des Écritures, hein, évidemment jusqu'à l'Apocalypse. Donc, nous pouvons faire cette lecture typologique et lire au fond le psaume 8, qui parle du fils de l'homme, un fils d'homme, qu'est-ce que c'est, un être humain. Nous pouvons le lire à partir de saint Jean, c'est-à-dire à partir du chapitre 19. Dans la Passion, c'est Pilate et les soldats, et les Juifs qui agissent, et Jésus est radicalement passif. Donc, c'est important de repérer ça. C'est Pilate, les Juifs, et les soldats qui agissent. C'est aussi une typologie, c'est-à-dire, c'est évidemment les Juifs et les païens. Donc, c'est pas uniquement les Juifs qui sont concernés. Pilate et les soldats. Et qui dépouillent cet homme de son honneur et de son humanité. C'est donc, si vous voulez, je dirais, l'homme ici, non pas face à Dieu, Dieu est absent d'une certaine manière ici de cette scène. Saint Jean s'arrange précisément pour ne pas le faire intervenir, pour montrer ça d'un point de vue narratif, c'est extrêmement intéressant. Non, c'est l'homme qui agit sur l'homme, voilà. L'homme devant l'homme. C'est l'homme qui agit sur l'autre, sur Jésus ici. Et le geste d'exposition publique posé par Pilate, donc on l'expose, cet homme, et surtout l'accompagnement par cette paradoxale parole, voici l'homme, fait ressurgir la question, mais qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Voilà. Quand on regarde ce personnage-là, qu'est-ce que l'homme? Et qui peut finalement répondre à cette question? Si l'homme est capable, même, je dirais, d'humilier à ce point l'autre, être humain, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes ceci? Et je crois que ça peut-être là nous permet de comprendre à nouveau, je dirais, à un niveau encore plus profond dans la méditation de ces textes, que finalement, cette question, qu'est-ce que l'homme, il faut l'adresser à quelqu'un. À qui l'adresser? À qui l'adresser? Dans l'anthropologie théologique, l'hypothèse de base, c'est qu'on ne peut que l'adresser à Dieu, cette question, finalement. Et au fond, dans les temps modernes et contemporains, on peut dire beaucoup de choses sur l'homme, nous allons le faire, mais ultimement, c'est une question, je dirais, qu'on adresse à quelqu'un, donc à celui que nous appelons Dieu, en nous interrogeant, est-ce que celui que nous appelons Dieu, est-ce qu'il s'intéresse réellement à cet être perdu dans l'univers qu'on appelle homme? Et que peut bien signifier, vous voyez, on est ici dans l'hésitation, est-ce que c'est un être couronné de gloire et d'honneur, mais c'est en même temps un être couronné d'épines, l'histoire nous l'apprend. La louange du nom de Dieu, Seigneur qu'il est grand ton nom, est mise ici à rude épreuve, à rude épreuve. Et je crois que c'est très important de dire ça, d'emblée, n'est-ce pas? C'est une louange mise à rude épreuve. La tension ou le paradoxe qui habite cette question, qu'est-ce que l'homme, couronné d'honneur, couronné d'épines, c'est ça que je voulais, si vous voulez, signaler un peu au point de départ, le suggérer, parce que c'est ça qui est derrière le titre « L'homme devant Dieu ». L'homme devant Dieu. Alors, deuxième petit point. Maintenant, il s'agira, toujours pour expliciter le titre, de m'expliquer avec la formule un peu, je dirais, que j'ai choisie ici, « devant Dieu ». Et j'ai trois raisons pour choisir ce « devant Dieu ». Donc j'ai mis ici en valeur, si vous voulez, je dirais, une préposition devant, parfois on dit aussi sous le regard, devant, sous le regard ou en présence de. Alors c'est une préposition, je vous ai donné ici dans le texte, si vous voulez, je dirais, les termes en hébreu, alpéné. En grec, alors malheureusement, dans le polycopier, il y a l'epsilon avec qui a sauté. Enopion en grec. Introduisé. Enopion, ou le célèbre en latin coram, devant. Alors, cette préposition dans l'écriture, elle est très liée, j'ai donné quelques exemples, à la métaphore du chemin. La métaphore du chemin. Donc, on l'a beaucoup chez Luc, Luc 1,17, 1,76, il marchera, il s'agit du Baptiste, par devant, sous le regard de Dieu, avec cette citation de Malachie 3,1, voici mon messager, il aplanira le chemin devant moi. Et Exode, non Exode, autre exemple, c'est tout à fait renversé. Je vais envoyer un ange devant toi, pour te garder en chemin et te faire entrer dans le lieu que je t'ai préparé. Donc, un ange qui précède, ou un messager, qui d'une certaine manière précède, je veux dire Dieu lui-même. Il marchera par devant. Alors, est-ce que c'est une métaphore spatiale ou une métaphore temporelle? Sans doute faut-il, lier les deux, temps, espace, d'où l'hésitation sur la traduction, devant, en présence de, et surtout, comment dire, sous le regard de. Donc j'aurais pu dire aussi dans le titre du cours, l'homme sous le regard de Dieu. Voilà. En ce sens, l'homme devant Dieu, l'homme en présence de Dieu. Alors cette préposition, c'est ma deuxième raison, a donné, lieu à deux traditions différentes et qui vont jouer d'ailleurs confessionnellement. D'abord, une première tradition qui explore, au fond, la signification extrêmement riche de cette préposition, s'interroge sur « mais de quel type de relation s'agit-il ? » L'homme devant Dieu. Et cette première tradition va accentuer la métaphore du visage. Parce que devant Dieu, sous le regard de Dieu, en présence de Dieu, évidemment, derrière, il y a l'idée de visage. On peut donc comprendre cette relation, parfois je vais dire maintenant dans le cours coram Deo, c'est le terme technique, coram, on prend le terme latin, n'est-ce pas, devant Dieu, coram Deo. Ça c'est les grands auteurs utilisent toujours ce terme, coram Deo. Donc on peut souligner l'idée de visage, ce que fera par exemple un Emmanuel Levinas, n'est-ce pas, qui à partir d'une phénoménologie du visage tente d'approcher, aussi le mystère de Dieu, de l'altérité radicale, de Dieu. Donc, ça serait donc une relation de visage à visage, face à face. Et du coup, l'homme devant Dieu serait regardé, comme dit Philon d'Alexandrie, et l'apôtre Paul va le reprendre, et ensuite toute une histoire de la mystique, le regardant regarder. C'est une magnifique proposition pour dire qui est l'homme. Le regardant regarder. Alors ça, nous sommes tous des regardants. Regardez, je vous regarde et vous me regardez. Évidemment, je suis un regardant regarder, mais chacun de vous, quand il se tourne vers son voisin, est un regardant regarder. Donc ça, c'est le point de départ d'une phénoménologie du regard qu'on trouve chez Merleau-Ponty. Mais évidemment, face à Dieu, donc Philon d'Alexandrie va expliciter ça, Abraham est un regardant regardé. Voilà, un regardant regardé. Voilà, vous avez là tout un... Et je serai, Saint Paul, chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, je vais voir comme je suis vu. Vous voyez, hein, ça c'est la vision béatifique, comme on dira aussi, c'est-à-dire le face-à-face avec Dieu, qui est au cœur de notre désir, comme disent les pères de l'Église, saint Augustin, je veux voir Dieu. Alors ça, c'est une première tradition, voilà. L'homme devant Dieu, voilà. Il y a une deuxième tradition qui émerge progressivement et qu'on va surtout trouver chez Luther. On parlera de lui, bien sûr. Dans le fait de regarder, d'être regardé, l'être de l'homme surgit comme un être exposé, un être exposé. Et quand je regarde et je me découvre regardé par d'autres, tout d'un coup j'entre dans ce qu'on appelle un forum. Un forum, c'est-à-dire quelque chose de public. Et très rapidement, il y a la scène du jugement qui vient. C'est archaïque, c'est aussi pour une part biblique, on va y revenir. Donc le regardant regarder se perçoit jugé devant un forum. Et c'est exactement ce qui arrive au Christ, n'est-ce pas? Jean 19, 15, le verset que j'ai cité tout à l'heure. Voilà. Il est regardé, voici l'homme, voilà, devant le jugement de la foule. Donc ça c'est une deuxième tradition. L'homme, dans un procès, pourrait-on dire, plus ou moins public, le Christ politique devant un procès, dans un procès politique. On voit bien comment une théologie comme celle de Luther peut se greffer sur une telle compréhension de la relation coram. Et du coup, l'homme, pour le problème à ce moment-là, l'homme jugé et sous le regard jugeant, tout le problème, c'est comment trouver une miséricorde. Et vous avez donc, alors là, toute l'entrée de l'anthropologie luthérienne, c'est-à-dire, voilà, devant le jugement, comment trouver un Dieu, un regardant, un quelqu'un qui me regarde avec bonté et miséricorde. Voilà, si vous voulez, je dirais ces deux traditions. Donc le titre « L'homme devant Dieu » est donc là, les trois raisons, les deux raisons que j'ai données, les premiers. Il me reste la troisième encore. Cette troisième raison de m'apprécier, de m'appuyer sur cette formule « L'homme devant Dieu » se situe à la limite de la théologie et de la philosophie maintenant. Et je vais faire maintenant une différence, je reste toujours avec ma préposition, coram, enopion, etc. Une distinction très importante entre deux types d'ontologie. On est à la limite de la philosophie de la théologie. Ontologie, bon, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas, la doctrine, pourrait-on dire, de l'être, une science fondamentale et qui réfléchit sur le réel, évidemment. Alors, le risque de toute anthropologie théologique est de se servir d'une ontologie de la substance. Et je m'explique tout de suite là-dessus. Une ontologie de la substance. Je vous ai mis ici, à la fin de la page 7, en bas de votre polycopié, la célèbre définition de Boès. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce philosophe qui a fait un magnifique livre, La consolation de la philosophie, qu'il a écrit dans la prison. Il était assassiné. C'est aussi un philosophe, je dirais, qui a subi le martyr, je dirais, prisonnier politique, 524, à la fin de l'Empire romain, la naissance 480. Et c'est à lui que nous devons la première définition de la personne humaine. De la personne humaine. Qu'on trouve aussi d'une autre manière chez Augustin, etc. Mais là, elle est vraiment codifiée. Persona est naturae rationalis individua substantia. Donc la personne, je traduis, c'est très facile, est une substance individuelle. C'est là où apparaît pour la première fois le terme individu, qui va devenir individualisme. Mais là, on l'a pour la première fois dans la langue latine. Persona est individua substantia, une substance individuelle, de nature relationnelle. Pardon, oh là là, qu'est-ce que j'ai dit ? Rationnelle. Vous voyez, j'ai déjà anticipé sur une autre ontologie relationnelle. Voilà. Donc ça, si vous voulez, alors il faut savoir ici ce qui est derrière. Évidemment, c'est la célèbre théorie des 10 catégories d'Aristote. Je fais un tout petit peu d'ontologie. Donc, Aristote qui distingue la substance, qui est la toute première catégorie, et 9 accidents, quantité, qualité, positionnement, etc. Peu importe cela, parmi les 9 catégories, vous trouvez une aussi qui s'appelle relation. Mais ce qui est important, c'est cette distinction entre substance et accident. L'accident, vous voyez, c'est ce qui advient, je traduis le terme latin, n'est-ce pas, accident. Ce qui advient à une substance sans pouvoir l'altérer, voilà le point. Sans pouvoir l'altérer, ce qui advient à une substance, alors pensez par exemple à la substance humaine, donc la personne, ce qui arrive à la personne humaine tout au long de son histoire sans pouvoir l'altérer parce que l'être humain prétend à l'ipséité, c'est-à-dire il est toujours encore le même aujourd'hui et hier, à 80 ans, même si toutes les cellules ont changé, donc ça c'est évidemment la réflexion de Paul Ricoeur qui nous a conduit très loin sur ce problème-là, mais il y a toujours une identité. Le terme substance voulait dire ça. Mais ce qui est problématique, ce qui advient à une substance sans pouvoir l'altérer comme substance, et la relation, voilà le point, difficile, et qui apparaît tout de suite quand on a en tête le titre de mon cours, c'est-à-dire que la relation est de l'ordre de l'accident. Et ça va aller jusque encore chez saint Thomas, alors qu'il va introduire, Augustin a beaucoup réfléchi à ça, magnifiquement. C'est-à-dire, parce que si Dieu est relation, la Trinité, est-ce qu'on peut dire que la relation, c'est uniquement quelque chose qui advient de l'extérieur, mais qui touche pas à la substance elle-même? Et non. Donc chez saint Thomas, c'est la relation qui est substance. Et voyez la mutation qui se produit. Alors, je ne vais pas entrer maintenant dans les problèmes de théologie trinitaire, mais voyez, ils sont extrêmement proches ici à ce point. Alors, l'importance dans cette ontologie-là, si on la regarde d'un point de vue linguistique, c'est le substantif. C'est le substantif, la substance. Alors que dans toute la tradition biblique, ce n'est pas le substantif qui est essentiel, mais c'est le verbe et la préposition. Être devant Dieu, la préposition. Alors, j'ai donné ici dans mon texte deux petits exemples. Vous voyez, deux formules pauliniennes pour vous illustrer ça, qui nous conduirait très loin. C'est pas une preuve, mais simplement pour que vous compreniez bien l'enjeu de ce que je suis en train de vous dire. Vous voyez, la nouveauté linguistique, donc à la page 8, 1 Corinthiens 8, 6. Il n'y a pour nous qu'un seul Dieu, le Père. Et j'ai mis les prépositions en italique. De qui tout vient et vers qui nous allons. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et que nous sommes, nous, alors là, bon, l'être humain. Et encore l'autre, Paul, Apollos ou Képhas, le monde, la vie ou la mort. Vous voyez, on passe à travers tout le réel, le présent ou l'avenir. Tout est à vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. L'exister chez saint Thomas, c'est exactement ça, l'exister at, vous voyez. L'exister, l'être, comme exister, comme verbe, c'est l'acte. Être, c'est pas avoir une existence, mais être, exister, et en relation, exister en relation. Là, on rejoint tout d'un coup quelque chose du langage de l'écriture. Il est tout à fait impossible de penser ces phrases que je viens de citer adéquatement dans une ontologie de la substance qui fait de la relation un accident qui ne touche pas réellement les substances que nous sommes. Et des substances qui ont un nom, par ailleurs, ce qui est tout à fait essentiel. Nous portons un nom, tu es un tel, et Dieu a un nom. Il faut donc passer d'une ontologie de la substance vers une ontologie de la relation, où c'est la relation, où je dirais le réseau de relations qui détermine les sujets. Qui détermine les sujets. La conséquence théologique et philosophique de cette transformation, donc le passage du substantif vers le verbe, et la préposition est facile à définir, à deviner. L'homme n'est jamais un être achevé. Il insiste, les prépositions permettent d'insister d'emblée sur le processus, le devenir de l'homme, en rétablissant donc la temporalité dans l'être humain. Voilà, si vous voulez, j'ai dit les trois raisons pour lesquelles. Donc la préposition, c'était ma première raison, les deux grandes traditions théologiques qui se greffent sur ce langage du devant Dieu, retenant toujours la figure de Malachie et du Baptiste pour cela, et ensuite c'est une question vraiment de mutation de l'ontologie, de notre manière de penser qui est ici en jeu. Ce qui me conduit immédiatement vers un dernier point, donc de ce cours d'anthropologie, l'homme devant Dieu, je dirais un peu avec saint Irénée, en raccourci, en miniature, en très peu de temps, le tout. C'est donc le problème des relations maintenant. Qu'est-ce que l'homme, couronné d'épines, couronné de gloire et d'honneur? Qu'est-ce que l'homme? Question posée dans la foi à Dieu lui-même, devant lui, par un être en relation, fondamentalement, ontologiquement en relation. Alors, nous existons, prenez ça comme un verbe, évidemment dans plusieurs types de relations. Il y a d'abord ma relation à moi-même, ce qu'on appelle aussi, donc je les ai ici mis, on peut rapidement regarder à la page 8, donc la relation à soi, la conscience, dans tous les sens du terme, on reviendra, c'est pas uniquement la conscience au sens philosophique du terme ou la conscience au sens moral du terme, mais aussi la conscience au sens spirituel du terme. La conscience, voyez, je dirais, on peut avoir différentes métaphores. On peut avoir la métaphore du jugement quand on parle de la conscience. Donc on est du côté de la conscience morale, on va revenir à tout ça. Mais il y a aussi la métaphore de la voix, n'est-ce pas? Qui est importante, la voix de la conscience. Voilà, on va revenir à ça. Donc la conscience, dans tous les sens du terme, il ne faut jamais oublier cela qui émerge d'un inconscient. Bon, la mutation freudienne. Mais il s'agit d'une expérience de singularité et d'unicité absolue, ce qu'on appelle aussi l'insubstituabilité. L'insubstituabilité. Personne ne peut se substituer à un autre. Ça, c'est la première relation. Ensuite, en même temps, la relation à l'autre. Je dis bien en même temps. Voyez, c'est ça qu'une ontologie de la substance ne parvient pas à penser. C'est l'imbrication, voyez, l'imbrication de ce jeu de relations. Alors, évidemment, ce deuxième type de relation introduit une complexification considérable en face de moi dans leur singularité, se trouve, et il faut immédiatement devenir concret, telle femme, tel homme, le père, la mère, le frère, la sœur. Vous voyez, des relations plus ou moins qualifiées où se relient à la fois des fonctions, mais c'est des êtres humains en relation. Alors ensuite, parallèlement à ça, la particularité de tel groupe. C'est-à-dire, ces relations-là n'existent pas sans une constitution groupale, n'est-ce pas? On existe dans des groupes humains. Je prends ce terme au plus large, plus général du terme. De telles sociétés, donc, dans lesquelles les sujets surgissent dans leur singularité et leur rationalité, et leur relationalité. Et ensuite, donc, les relations, l'universalité, singularité, particularité de la société française, de telle région, etc., et l'universalité. L'universalité pris au sens synchronique du terme, c'est-à-dire tous les êtres humains vivant en même temps sur un même globe, et en même temps diachronique, il ne faut pas oublier ça, à travers l'histoire. Parce que si on oublie ça, on peut évidemment pas penser, je dirais, un globe habitable encore demain, toute la question écologique. Donc le diachronique intervient dès le jeu des relations. Donc une complexité grandissante qui transforme la relation à soi. Vous voyez, il n'y a pas d'abord, je le redis, la relation à soi, et ensuite il y a le reste, donc l'imbrication. Et troisième type de relation, en même temps donc, de nouveau un en même temps, la relation à la nature qu'on a déjà évidemment chez Pascal et dans le psaume, à la nature ou à l'environnement, terre, ciel, corps, intimement liés. la nature comprise, je dirais d'abord comme saine, ce qu'elle est dans la Bible d'abord, comme saine, où émergent les sujets dans leur singularité, leur particularité et dans l'universalité de ce qu'on appelle l'anthroposphère, l'anthropocène. Alors, l'homme moderne, pour faire très très bref, évidemment, ne se contente pas d'évoluer sur une scène, mais il la transforme. Il la transforme. Et il la considère d'abord, je dirais un peu comme on peut considérer des coulisses. Il l'instrumentalise, n'est-ce pas, de cette scène. Il s'y installe sur cette scène terre, comme ça lui plaît, etc., avec beaucoup d'ivresse, presque, pourrait-on dire, parce qu'il a tellement de moyens pour transformer la scène. Jusqu'à ce qu'il arrive, et là, c'est notre aujourd'hui, à une difficile prise de conscience d'une limite absolue et donc de la nécessité de changer individuellement et collectivement son rapport à l'environnement. Voilà. Est-ce que la Terre sera encore habitable demain? Et qu'est-ce qui nous motiverait de nous intéresser à cela? Évidemment, si on a oublié au point de départ déjà que nous sommes des êtres diachroniques, c'est-à-dire que des générations qui suivent, c'est central dans la Genèse, livre de la Genèse, livre des générations, Toledot, comme disent les Juifs. Si on a oublié ça, ce qui est évidemment le risque de l'homme moderne, alors on ne va pas rentrer dans le troisième terme, on va croire qu'on peut changer la terre comme on bouge des coulisses sur une scène de théâtre. Voilà. On s'en fiche de la pièce qui va y être jouée demain, voilà. Et après-demain. Alors, voyez, j'ai pas encore parlé de Dieu. Maintenant vient, évidemment, je dirais, la question de Dieu, hein, qui est la question importante pour un cours d'anthropologie théologique. La relation coram Deo, l'homme devant Dieu, s'inscrit, évidemment, dans ce réseau complexe de relations humaines. Elle s'y inscrit. J'utilise pour le moment cette métaphore. Donc vous avez un texte et vous y inscrivez quelque chose. Cette formule indique toute la difficulté et la problématique d'une anthropologie théologique. Comment concevoir la présence de cette relation coram Deo dans le réseau complexe de la relationalité humaine? Comment? S'agit-il d'une pure extériorité? Je dirais d'une sorte de forum divin qui laisse l'anthroposphère intacte sans la toucher. On pourrait parler parfois aussi d'une sorte d'horizon, hein, métaphore intéressante, c'est-à-dire nous on est à l'intérieur et on s'occupe de ce qui nous concerne, du monde, du quotidien, et Dieu est à l'horizon, donc c'est encore loin, et plus on avance, l'horizon recule. Oui. C'était un peu la question de la session de rentrée. C'est-à-dire, est-ce que finalement le royaume de Dieu, pour utiliser un autre vocabulaire, est-ce que le royaume de Dieu nous concerne les réalités de la vie humaine, quotidienne? Est-ce qu'elle les bouscule? Vous vous rappelez, c'était la deuxième pour ceux qui ont suivi la session de rentrée. Donc, faut-il tenir que la relation coram Deo est absolument décisive? Et qu'elle s'inscrit réellement dans l'anthroposphère. Si oui, alors quelle recomposition des relations humaines s'ensuivent? J'utilise ici le terme recomposition, donc la relation à moi-même, à autrui et au monde. Une chose est claire, et maintenant j'entre un peu dans une sorte de paradoxe. La problématique du cours qu'il faudra évidemment aborder. Il n'y a pas d'anthropologie théologique, sans faire intervenir la relation à Dieu. Évidemment. Ça tombe sous le sens, mais ça règle rien. La question biblique, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes souci, ou le paradoxe de l'homme couronné d'épines par autrui, et pourtant, je traduis déjà un peu, promis à recevoir une couronne de gloire et d'honneur, ne devient plus énigmatique aujourd'hui. Je m'explique un peu là-dessus. Plus énigmatique aujourd'hui. Parce qu'évidemment, la relation à Dieu était toujours, n'était jamais de l'ordre de l'évidence. Bien sûr. La question du psaume et le geste du Pilate le montrent. Mais la vision du monde présupposée par la Bible disposait quand même de l'articulation entre la relation coram me ipso, la relation devant moi, la relation coram mundo, devant le monde, et la relation coram Deo. Ça, ça fait partie quand même, je dirais, du patrimoine biblique. Or, dans notre monde moderne, ce présupposé a globalement disparu. C'est ça le problème. La relation coram Deo n'est plus de l'ordre de la nécessité. Apparemment, je dis bien apparemment, l'homme peut devenir humain sans Dieu. Apparemment, l'homme peut devenir humain sans Dieu. Et du coup, vous voyez bien le problème qui se pose. L'adjectif théologique accolé à anthropologie théologique, a donc un effet de particularisation. De particularisation. Il y a l'anthropologie, plus ou moins universelle, profane, qu'on développe, qu'elle est plurielle, on va le voir. Et quand vous mettez l'adjectif théologique, alors vous particularisez. Ou particulariser cette anthropologique. Au lieu d'universaliser et de singulariser l'homme, la relation coram Deo semble particulariser ceux et celles qui s'en réclament. Voilà le problème. C'est ça le problème qu'il faut traiter pendant ce cours. Le problème qu'il nous faudra affronter. Anthropologie et théologique semblent, je dirais, anthropologie et l'adjectif théologique semblent presque se contredire. Ou théologique semble particulariser l'anthropologie. Comment montrer donc, voilà maintenant ma question, comment montrer donc que la relation l'homme devant Dieu, coram Deo, transforme, recompose vraiment toute la relationnalité humaine, comment montrer qu'elle l'humanise réellement en l'universalisant, comment montrer que le théologique ne particularise pas, mais universalise. Et que veut dire évidemment universel ici, hein? C'est ça la question. Alors, dans l'introduction, je dirais les quatre chapitres, si vous voulez, qui vont venir maintenant, on peut peut-être regarder un peu le plan à la page 5 de votre polycopier. Je pense que la question est comme devenue claire, hein, après cette introduction. Voyez, il y a quatre chapitres dans cette introduction. Il s'agit d'abord, je vais prendre à bras-le-corps la question que je viens de poser. Ça veut dire, je commence par le particulier, ce que les autres disent comme, que c'est particulier. Et ça l'est historiquement. Voilà, nous ne sommes pas l'islam, nous ne sommes pas, je ne propose pas une anthropologie juive, ni islamique, ni agnostique, etc. etc. Voilà. Je commence donc par le titre « La place de l'homme dans la confession de foi de l'Église ». Je prends donc la question de la particularité à bras le corps. Pas d'anthropologie théologique en dehors de la confession de foi de l'Église. Et donc, ce n'est pas la mienne, hein, dont il s'agit. Il s'agit celle de la communauté chrétienne. C'est de cela dont il faudra parler. Alors ensuite, évidemment, vient tout de suite, c'est les deux chapitres suivants, la difficulté. Je me l'augmente d'une certaine manière. La difficile reconnaissance de la proposition chrétienne du salut par l'homme moderne et contemporain. Donc vous allez voir, au cœur de l'anthropologie, il y a question du salut. On ne sait pas encore ce que veut dire ce machin, mais on va essayer de comprendre le salut. Donc la difficile reconnaissance, et une fois qu'on a fait une petite phénoménologie de ces difficultés, qui sont aussi des difficultés, je dirais, pastorales, évidemment, il s'agit de regarder à bras le corps, vous voyez, l'anthropologie théologique et l'anthropologie profane, profane pour dire, vous voyez, je l'ai mis entre guillemets, j'évite ici pour le moment séculariser, parce que ça risque d'être ambigu, je préciserai, dans la modernité et la postmodernité de notre actualité. Comment finalement on peut articuler les deux? Il y a des modèles d'articulation possibles. Et ensuite, vous voyez, dernier point, un peu, je dis, en conclusion de cette longue introduction, c'est au fond, je dirais, l'ambiguïté du titre « Traité d'anthropologie théologique ». J'ai évoqué le terme prière tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire un traité de l'homme? Voilà. Est-ce qu'on peut faire un traité de l'homme? L'homme indéfinissable. Donc je vais un peu réfléchir là-dessus. Voilà, si vous voulez, je dirais là, ce qui nous attend. Alors, on va juste commencer un tout petit peu le premier chapitre avant la pause. Vous voyez l'exergue. Donc, quelques références. Et je vais commencer juste par une petite observation très très brève. Une disproportion significative entre le traitement de la question de l'homme dans l'Écriture et dans la tradition de l'Église. Quand vous regardez l'Écriture, alors c'est extrêmement riche. L'Écriture l'aborde l'homme sous forme de chemin. L'être humain est un chemin, pourrait-on dire. On va revenir. C'est au fond la thèse du Deutéronome déjà. Un itinérant, une itinérance, un chemin. Et donc, il est en itinérance vers un accomplissement. Vers un accomplissement. Voilà. Ce qu'on appelle le salut. Alors, quand on regarde ça, on a un dossier scripturaire. J'ai dit, l'Écriture est extrêmement riche. Et on va y revenir beaucoup dans ce cours. Il y a d'abord un langage qui est pris d'un bout à l'autre dans le registre des relations humaines, transposé dans l'ordre de la relation avec Dieu. Donc, métaphore, transposition. Alors évidemment, les relations humaines, c'est une richesse extraordinaire, et c'est ça qui est transposé pour parler de la relation avec Dieu. La notion d'alliance, c'est la pointe. L'homme devant Dieu. Alors ensuite, vous avez un certain nombre d'événements. On ne peut pas parler de l'homme sans ces événements fondateurs, pourrait-on dire, comme l'Exode, la traversée du désert, l'entrée dans la terre promise, le départ en exil et le retour, le martyr, la crucifixion, la résurrection. Donc des événements. Et vous avez donc un langage, des relations, des événements et des schèmes d'interprétation pour exprimer donc la transformation de l'être humain. Oui. L'inscription de la relation coram Deo recompose notre relationnalité humaine, donc des schèmes qui expriment cette transformation. Vous avez par exemple le schème de la libération, on va aller voir les schèmes. Vous avez à l'opposition le schème de la substitution qui vient de la fête du Yom Kippour. Donc voilà, un regard vers nos frères juifs cette semaine. Voilà. C'est le schème de la substitution. C'est-à-dire un animal est substitué à l'être humain. Vous avez le schème de l'échange, de la solidarité, du don, voilà, qui est peut-être l'unique, l'ultime schème, si vous voulez. On va y revenir. Alors, quand on regarde du côté dogmatique maintenant, qu'est-ce qu'on constate? qu'est-ce qu'on constate? Les textes normatifs de l'Église. Pour la christologie, pour celles qui l'ont suivi, il y a beaucoup de choses. Vous vous rappelez de ça? Énormément. Ah, pour la dogmatique, très peu. Très peu. Ouais. Alors, regardez la bibliographie. Vous avez tout à la page 136. Très peu. Presque rien dans l'Antiquité. Donc, la page 136 de votre dossier, la bibliographie. Voilà. Donc, deux conciles, notamment le concile d'Orange, très peu de choses. Le concile de Trente, là, ça commence. Luther. Et ensuite, Vatican I, un peu, et surtout Vatican II, et après. Donc, vous voyez, très peu. On va essayer, après la pause, de comprendre pourquoi cette disproportion. C'est au fond que l'anthropologie devient vraiment décisive pendant le deuxième millénaire. Et à partir du XVIe siècle. Bon, il est temps de faire la pause habituelle. Bien, on va continuer, si vous voulez bien. Donc, c'est le premier chapitre, la place de l'homme dans la confession de foi de l'Église. J'ai parlé d'un dossier scripturaire extrêmement riche, et en même temps, je dirais, ce qu'on pourrait appeler les textes normatifs de l'Église, on va revenir à ce terme. C'est un nombre restreint. En comparaison, évidemment, ce que nous connaissons de l'histoire de la christologie, où il y a, voilà, toute la tradition conciliaire est énorme. Alors, en fait, je dirais, on peut distinguer, grosso modo, quelques étapes. Je dirais, il y a d'abord ce que nous allons regarder tout de suite, le symbole, évidemment, comme premier texte, le symbole de Nicée-Constantinople, comme on dit parfois. Constantinople, parce qu'en 381, c'est notamment le troisième article, comme on dit, sur le Saint-Esprit, qui a été développé, ajouté aux deux premiers articles. Ensuite, il y a tout le débat du XVIe siècle. Je passe rapidement sur... évidemment, on va revenir à Saint-Augustin, au Concile d'Orange, etc. Mais il y a un véritable seuil avec le décret sur la justification du Concile de Trente et le débat avec le luthéranisme. Et vous avez à l'autre bout, donc, à la veille du jubilé, à Augsbourg, la déclaration sur la justification de la foi, la déclaration commune. Et donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, la constitution pastorale Gaudium et Spes, qu'on regardera évidemment de très près, où s'introduit pour la première fois la notion d'historicité de l'anthropologie chrétienne ou de l'anthropologie théologique. Alors, je vais commencer par le symbole aujourd'hui, 381. En miniature, en raccourci, c'est la formule de Saint-Irénée, et vous proposez un bref commentaire. Alors, vous avez évidemment le texte en annexe. Je vous ai donné, non pas la traduction liturgique, que vous connaissez évidemment tous par cœur, mais à la page 145, vous trouvez dans une traduction, je dirais un peu littérale, avec un bref commentaire, par un ancien professeur qui est maintenant émérite, Pierre Valla. Donc, je vous ai donné ce texte. Alors, que je vais évidemment pas commenter, je dirais, en détail, mais quand même, je dirais, en dire quelques éléments. D'abord, la structure globale. Le texte est écrit de cette manière-là, donc trois articles, les trois noms sacrés. Donc, premier article, le Père. Deuxième article, Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le troisième article, l'Esprit, le Saint, etc., etc. Donc ça, c'est la grande structure. Et évidemment, l'homme émerge explicitement au milieu, voilà, au milieu du texte, deuxième partie du deuxième article, pour nous les hommes. Donc vous avez là déjà le célèbre pour, qui est tout le problème de la sotériologie, question du salut, pour nous les hommes, et pour notre salut, etc. Pour nous, comment traduire, on va voir, en notre faveur, à notre place, en solidarité avec nous, c'est au fond les trois traductions qu'on a. On va évidemment revenir beaucoup à cette question. Mais l'apparition de l'homme pour nous et pour notre salut, pour nous les hommes et pour notre salut, suppose que l'homme existe déjà. Et vous voyez, nous sommes renvoyés sur cet itinéraire, parce que le symbole retrace une sorte d'itinéraire vers la création. Hein. Et je dirais peut-être même encore plus loin, nous croyons. Quand nous disons nous croyons, nous supposons déjà, nous sommes des êtres humains. Voilà. Nous croyons. Donc la création implique évidemment, donc là c'est la provenance de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, la provenance de l'homme? La création implique, je dirais, une double distinction. C'est-à-dire entre le ciel et la terre. Alors là, on a ça dans le psaume 8. Et entre le visible et l'invisible. L'être humain, voilà, comme dit Pascal, au milieu entre la terre et le ciel, et entre le visible et l'invisible. Et apparaît aussi, je dirais, au début du deuxième article, déjà une distinction tout à fait essentielle entre création et engendrement. Engendrer, non pas créer. Alors là, il s'agit de l'homme, Christ, engendré, non pas créé. Alors, l'engendrement, évidemment, on est dans le langage relationnel, parental, voilà. Alors, ce début que je viens de citer, avant qu'arrive, n'est-ce pas, pour nous les hommes et pour notre salut, hein, inaugure déjà un itinéraire. Hein. Si l'homme, je dirais, est à la fois entre le ciel et la terre, quand il a en lui l'invisible, et il est évidemment un être de chair visible, voilà, il est créé, engendré, alors ça inaugure un chemin, voilà, un itinéraire nouveau de l'homme. Et cet itinéraire, au fond, on peut le décoder dans l'ensemble du texte, et le conduit vers quelque part. À la fin du deuxième article, apparemment, on est déjà à la fin. Voyez, sa royauté, celle du Christ, n'aura pas de fin. Il reviendra juger les vivants et les morts. Et c'est là où apparaît, si vous voulez, je dirais, une deuxième distinction. Une deuxième distinction, les vivants et les morts. Les vivants. Une autre distinction, pardon, on a eu déjà deux, ciel et terre, visible et invisible. Voilà. Les vivants et les morts. Et la fin du récit semble être ici atteint, à nouveau avec gloire, jugés vivants et morts, de lui la royauté n'aura pas de fin. Voilà. Donc la royauté de cet homme, couronné de gloire et d'honneur, et d'épines évidemment, cet homme-là, la royauté n'aura pas de fin. Et on a l'impression qu'on est à la fin du récit ici. Et ça repart. Ça, c'est le troisième article, ça repart, ça remonte même vers les prophètes. Et dans le troisième article. La fin du récit semble être atteint, on retourne à nouveau vers le départ, et apparaît ici une nouvelle distinction, encore une quatrième, vie et esprit. Vie et esprit, le terme de vie, lié à l'esprit. Et de cette vie, on dit deux choses. Elle passe par la remise des péchés. Ça précise le concept de salut. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Notre salut, Ici, seulement dans le troisième article, donc la vie de l'homme remise des péchés, et c'est une vie destinée à la résurrection, donc une vie destinée au dépassement de la division des vivants et des morts, la résurrection des morts. Et on va retrouver encore une fois la vie tout à fait à la fin du texte, voilà, et la vie du monde qui vient. Donc, vous voyez, ce texte souligne beaucoup la notion de vie à laquelle je reviendrai dans quelques instants. Alors, la place de l'homme dans la confession de foi, je résume un tout petit peu. Donc, j'ai vu, si vous voulez, je dirais, les premiers points A, B, C, D de votre polycopié. La place de l'homme, donc, elle est explicite. C'est là où l'homme est nommé. Dans le deuxième article, et seulement là, en lien avec le Christ. Mais à partir de ce point central de la foi, donc ce lien qui est au cœur d'une anthropologie théologique entre Christ et nous les hommes, évidemment, on peut se promener dans le récit vers le début, ce que j'ai fait, et vers la fin. L'homme est explicitement présent au centre, mais il se retrouve évidemment dans la totalité du texte. Il est déjà impliqué dans le « nous » du début, nous croyons, et explicitement vers la fin, quand la notion de salut s'explicite. Alors, je vais élargir maintenant cette perspective. Vous voyez, ça c'était le bref, très bref commentaire du symbole de Nicée-Constantinople. La place de l'anthropologie théologique dans la dogmatique chrétienne. Alors, c'est une question difficile parce que dans la dogmatique chrétienne, je précise pas ce terme pour le moment, la christologie, la théologie de la Trinité, la théologie de la rédemption, l'anthropologie, l'eschatologie. Évidemment, l'homme est très difficile à positionner parce qu'il est partout. Et on ne peut pas, d'une certaine manière, l'isoler du reste. Même si le centre est net, c'est le lien entre lui et le Christ. Pour nous et pour notre salut, il est descendu du ciel. Ça, c'est le cœur de l'anthropologie théologique. Mais à partir de ce point, il est partout. Hein. Alors, on a essayé de créer des structures. Je vous donne la structure de saint Thomas, n'est-ce pas? Vous voyez les trois parties de la somme. Première partie, Dieu. Deuxième partie, l'homme. Alors, c'est là. Autour de 1274, Thomas meurt dans cette année-là, la somme est inachevée, la troisième partie n'est pas achevée, une symphonie inachevée, mais l'homme est isolé là, voyez. Alors il est omniprésent dans la somme, mais là, pour la première fois, il y a une partie qui lui est consacrée. Alors dans les temps modernes, quand vous regardez les critiques de Kant, par exemple, n'est-ce pas, on est aussi dans une tripartition, mais elle est assez différente. Dieu, l'homme, le monde. Dieu, l'homme, le monde. Les trois grandes thématiques. Dieu, l'âme humaine, l'homme et le cosmos, n'est-ce pas, l'univers. Alors, il y a évidemment, je dirais, un risque ici d'abstraction. Hein, d'abstraction. Quand on parle d'un traité d'anthropologie théologique, le risque, c'est évidemment d'abstraire l'homme du reste. L'homme devant Dieu dans le monde. Donc, l'enjeu des prépositions dont j'ai parlé tout à l'heure et qui se retrouve, c'est pour ça que je vous ai donné le texte dans la traduction de Pierre Valin, vous avez vu ce qu'on ne perçoit pas dans la traduction liturgique. Il faut regarder de très près le texte, à quel point les prépositions dans ce texte du symbole sont omniprésentes. Il me semble qu'il faut donc préciser la place de l'anthropologie en fonction de la structure trinitaire du symbole. Le problème central est le respect devant l'organicité, alors là va intervenir maintenant un nouveau terme, l'organicité du mystère chrétien, hein, qui est un tout, voyez, et un tout. Et dans un tout, vous pouvez jamais isoler une partie sans regarder l'ensemble, l'organicité du mystère chrétien. Alors, je parle plutôt d'organicité et pas de systématicité, théologie systématique. On m'a présenté comme ça l'autre jour ici, j'enseigne la théologie systématique. Oui, 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 on peut dire ça, on dit ça beaucoup aujourd'hui. Mais à condition qu'on entende vraiment derrière systématicité quelque chose de très ouvert. Vous voyez, quand vous entendez système, vous entendez plutôt quelque chose de fermé, de compact. L'organicité dit mieux qu'il s'agit d'une vie, qu'il s'agit d'une vie. L'organicité du mystère, voilà. Et donc, ce mystère, dans son organicité, tel qu'il nous est présenté dans le symbole de Nicée-Constantinople, où l'homme apparaît au centre, au milieu, en lien avec le Christ, ce mystère... Et ça fait partie de l'organicité, vous pouvez le lire dans deux sens. Vous pouvez lire, d'abord, je dirais, le texte selon l'ordre de la composition, pourrait-on dire. Paul Ricoeur dirait l'ordre épisodique. On parle d'abord du Père, ensuite on parle du Fils, et ensuite on parle de l'Esprit de l'Église. Oui. L'ordre de réalité, l'ordre de révélation aussi. L'ordre de révélation. Oui, le Christ ne vient pas tout de suite dans l'ordre de la révélation. Et l'Esprit Saint, c'est le Christ qui nous l'envoie, ou comme en disant plus tôt, je dirais, de la part du Père. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est l'ordre. Mais en même temps, quand on regarde bien le texte, il faut le relire à partir de la fin. Parce que c'est là, je dirais, où il s'agit de notre aujourd'hui. Dans la fin, dans le troisième article, vivant dans l'esprit, connaissant, je dirais, notre division entre les vivants et les morts, habités par le péché, tout en étant délivrés, en marche vers la résurrection des morts et la vie du monde à venir, ça c'est notre aujourd'hui, nous découvrons à partir de ce point la racine du salut. Voyez, nous remontons d'une certaine manière, ou nous descendons dans les profondeurs. Donc le Christ, voilà. Et le Christ, le Fils du Père, envoyé par le Créateur de toutes choses. Alors, voyez là, on est dans la lecture inverse. Alors, ça c'est très important de souligner, vous allez voir maintenant pourquoi. La complémentarité circulaire de ces deux mouvements, dans le symbole, de ces deux mouvements de lecture. On pourrait dire l'ordre de réalité, l'origine à partir du Père, le dessein de Dieu, et l'ordre de la connaissance, c'est-à-dire à partir du lieu où nous sommes aujourd'hui. Voilà. Donc les deux ordres. Et c'est donc cette complémentarité circulaire qui définit l'organisation, l'organicité du mystère chrétien. Alors, au cœur de cela, j'ai déjà utilisé le terme récit. Voyez, il y a au fond ce qu'on pourrait dire le récit du mystère chrétien, que le raccourci du symbole, je viens de le dire, le raccourci, n'est-ce pas, en miniature, le symbole nous propose ce récit de l'histoire du salut, voilà, de l'histoire du salut, de l'oikonomia, comme disaient aussi les Grecs, de l'économie du salut, voilà. Et au fond, je dirais, ce que je viens de faire, je viens de regarder quelle est la position de l'homme dans l'économie du salut, dans le récit du salut, voilà, dans l'organicité du mystère chrétien. Alors ça, c'est, si vous voulez, je dirais, le premier versant, je dirais, au fond, l'homme dans l'histoire du salut. Et on pourrait s'arrêter ici en oubliant tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant sur la difficile réception, au fond, de l'anthropologie chrétienne dans notre monde, en répétant simplement ce que le symbole nous raconte, en répétant simplement quelle est le positionnement de l'homme dans l'économie du salut, dans l'histoire du salut, dans le symbole qui nous propose en miniature l'ensemble du mystère chrétien dans son organicité. Et en suivant les deux lectures, c'est-à-dire à partir de l'origine, création, vers l'accomplissement, et l'autre lecture à partir de la connaissance, c'est-à-dire à partir de ce que nous vivons comme chrétiens actuellement du mystère chrétien. Alors, apparaît ici le talent d'Achille, parce que quand on regarde maintenant de près de nouveau le texte, on trouve un certain nombre de mots, et en particulier deux mots, logos et vie. Logos et vie, qui sont d'ailleurs intimement liés, ces deux mots, logos et vie. Le terme « vie », vous voyez, c'est un concept paulinien et johannique, comme le terme « logos », repris par le symbole. « Logos », on peut traduire « parole » ou « articulation ». On retrouve ici l'idée de l'organicité du mystère. Et Jean et Paul relient, je viens de le dire, intimement « vie » et « logos ». En lui était la vie, Jean 1, 4. Où on trouve un peu la même chose analogiquement aussi chez l'apôtre Paul. Donc il y a un lien intime entre ces deux termes, vie et logos. L'organicité de la vie, structurée par le logos, et qui est le logos évidemment du Père incarné, voilà, pour faire bref. Alors la difficulté, le talon d'Achille, c'est que ces termes « logos » et « vie » dans l'Écriture, au IVe siècle, quand a été finalisé le symbole, au XVIe siècle, au XXe siècle, ne veulent plus dire exactement la même chose. Et voyez, apparaît ici, je dirais, dans le texte lui-même, une historicité. Pour ceux qui ont suivi le cours de Christologie, je vais dire la même chose d'une autre manière. Vous rappelez peut-être du terme qu'on traduit de même nature que le Père. Voilà. Le célèbre homo ousios. Alors là, c'est net. Là, c'est net. C'est-à-dire, on introduit dans le symbole un concept philosophique pour s'expliciter. Alors, on pourrait dire que le terme « vie » et le terme « logos », ce sont des termes philosophiques aussi, mais ce sont aussi des termes bibliques. Donc on voit moins, je dirais ici, une opération qui est cachée, au fond dans le texte, c'est quand même des termes « logos » quand vous traduisez « parole », vous pouvez aussi parfois traduire « articulation »,« raison », qui ne veulent pas du tout dire la même chose dans les textes bibliques au IVe siècle et au XXe siècle. Donc, il y a à l'intérieur du symbole une historicité qui est cachée, et qui est l'historicité de la vie et du logos, et qui nous oblige d'une certaine manière, qui nous oblige à faire une opération d'interprétation, une opération d'interprétation. Aujourd'hui, c'est-à-dire de nous interroger quand nous faisons l'anthropologie théologique, de ne pas rester uniquement à l'intérieur du symbole, et de nous interroger quel est l'homme à l'intérieur du symbole, à l'intérieur de l'économie du salut, à l'intérieur du mystère chrétien, mais aussi de nous interroger quelle est la place du mystère chrétien de l'homme à l'intérieur de l'histoire culturelle de l'humanité. Vous voyez, vous inversez la chose. Quel est le mystère de l'homme tel qu'il nous est présenté par le symbole, à l'intérieur de l'histoire culturelle de l'humanité. Comment comprendre, je dirais aujourd'hui, en fait, ce que le symbole nous dit de l'homme, de la vie et du logos. Et là, vous êtes devant la tâche d'un traité dogmatique de l'anthropologie, un traité dogmatique. Alors, vous comprenez aussi tout de suite, je veux dire, pourquoi on ne s'est pas arrêté au symbole? Pourquoi à partir, je veux dire, du XVIe siècle, par exemple, quand la modernité commençait à frapper à la porte de l'Église, on a dû traiter de nouveau de la question de l'homme à partir du XVIe siècle. Et pourquoi à partir du XXe siècle, avec le Concile Vatican II, alors de nouveau, je dirais, l'histoire culturelle de l'humanité a bougé très fondamentalement et on a dû refaire, si vous voulez, l'opération de l'interprétation. Alors j'y ai déjà un tout petit peu anticipé. Donc nous revenons donc, je dirais, à la page 10 de notre dossier. On va un peu résumer ça, mais je vous ai déjà donné l'essentiel du premier chapitre. Donc le point A était respecter l'organicité du mystère chrétien et de la dogmatique. Donc je me suis expliqué un peu sur la notion de systématicité, sur la double lecture. Donc vous allez retrouver cela. Le point B était la complémentarité, circularité des deux dimensions de découverte ou de connaissance et de reprise à partir de l'origine. Donc, les notions que vous trouvez là, histoire du salut, les deux concepts vie et logos, et le troisième petit point, ce que j'ai appelé le talon d'Achille de l'anthropologie théologique, à l'arrière-plan de l'histoire du salut. Donc je redis ce que je viens de dire, mais là je lis le texte que j'ai écrit. À l'arrière-plan de l'histoire du salut se trouvent des notions comme vie et logos qui ont leur propre historicité. Voilà la pointe. Leur propre historicité, comme le terme consubstantiel en christologie. Et quand je dis historicité, pensez bien que c'est culturel. En Afrique, on ne va pas traduire « logos » et « vie » de la même manière qu'ici en Europe, voyez. Donc, le travail de dogmatique est à faire ici. Mettre le croire chrétien et son histoire du salut en lien avec l'historicité de la vie et du logos. L'historicité de la vie et du logos, c'est-à-dire la culture. La culture. Et la culture est une culture de la vie et du logos, les deux intimement liés, parce qu'ils disent déjà quelque chose de l'être humain en relation. Alors, j'en reviens, si vous voulez, au résultat. Donc, je termine ce point 2, progressivement, la place de l'anthropologie théologique dans la dogmatique chrétienne. Donc, le résultat. Donc, la base, c'est le schéma trinitaire de l'anthropologie théologique, si je prends le mystère. Le schéma trinitaire. L'homme créé, d'où vient-il? L'homme sauvé, donc on est au milieu du symbole, d'où vient-il l'homme créé, sauvé, et l'homme allant vers son accomplissement. Donc ce qu'on appelle en termes techniques l'articulation de la protologie. Protologie, donc ça veut dire protos, le premier, donc ça nous renvoie plutôt à l'origine, et eschatologie, la fin, voilà, la fin. Donc ça c'est le schéma de base. La difficulté principale se trouve au milieu, pour nous, les hommes, et pour notre salut. C'est-à-dire le lien d'articulation entre la christologie et la sotériologie. Et je l'avais dit l'an dernier, il n'y a pas de cours de christologie sans sotériologie, et il n'y a pas de cours de sotériologie. Donc soter, n'est-ce pas, c'est le sauveur. Sotériologie veut dire la doctrine du salut. Donc il n'y a pas de réflexion sur le salut dans la tradition chrétienne sans revenir au Christ, n'est-ce pas. Les deux sont intimement liés, et au centre du symbole, la connexion est faite, pour nous les hommes et pour notre salut. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'anthropologie théologique. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, on peut dire depuis Karl Barth,
On va revenir à cette figure. On prend l'habitude d'articuler les deux, donc sotériologie et christologie, aussi en catholicisme, l'une étant tournée vers le Christ, à partir de l'homme, donc ça c'est la christologie, l'autre étant tournée vers l'homme, à partir du Christ. Voilà. Je crois que c'est clair. Voilà. Alors, troisième petit point pour bien situer l'anthropologie théologique, donc l'homme est partout, je le disais tout à l'heure, mais il est au centre, il est partout, et donc la difficulté c'est qu'on oublie le tout, l'organicité, et qu'on traite uniquement un élément. La concentration sur le Christ risque cependant d'oublier les autres pôles du schématisme, c'est-à-dire donc le rapport à la création. Alors en même temps, vous aurez un cours sur la création cette année, donc je ne vais pas faire un cours sur la création, mais on ne peut pas ne pas en parler. Et le rapport évidemment au troisième article, la pneumatologie, l'Esprit Saint, le rapport, l'itinéraire d'accomplissement. D'où, si vous voulez, je dirais, le plan maintenant des trois parties du cours. On revient à la page 5. Donc, la première partie, la perspective christologique de l'anthropologie théologique. Donc là, ça c'est la partie, si vous voulez, je dirais, tournée vers la christologie. C'est-à-dire, on considère l'homme à partir, je dirais, du Christ. Voilà. Et ensuite, l'homme créé à l'image de Dieu, deuxième partie, radicalement marqué par la fragilité et le péché, mais sauvé par la grâce du Christ. Alors là, c'est la remontée vers la protologie, donc vers le premier article du credo. Et ensuite, la troisième partie, l'accomplissement de l'homme dans la force de l'esprit. Alors là, c'est plutôt le troisième article qui est visé. Donc, vous voyez, la structure est extrêmement simple du cours. Elle suit, finalement, ce qu'on a pris l'habitude de faire depuis plus que 50 ans maintenant. On suit, je dirais, la structure trinitaire. Mais nous allons rapidement voir que c'est pas si simple que ça. Alors, dernier point. Ce positionnement de l'anthropologie théologique, à l'intérieur du mystère chrétien, l'homme au sein de l'histoire du salut, là il y a une petite faute là, du symbole, n'est qu'un versant. Vous voyez, je reviens à la problématique de mon cours de tout à l'heure, n'est qu'un versant du problème. L'autre versant, c'est le positionnement de l'anthropologie théologique, à savoir du croire et de son histoire, le croire et son histoire, c'est-à-dire l'histoire du salut, le symbole, à l'intérieur de l'histoire culturelle de l'humanité. Vous voyez, le théologique comme adjectif, est-ce qu'il particularise finalement l'anthropologie? Ou est-ce qu'il y a un germe d'universalisation? Voilà. Ça, c'est l'autre versant. La tâche de la dogmatique, c'est précisément l'articulation de ces deux versants. Et ça, c'est pas une fantaisie, je dirais, de ma part, ou des théologiens. Mais le problème est impliqué dans le symbole lui-même. Ce qui est net, je le redis, pour la christologie, c'est le consubstantiel, homoousios, mais qui est moins visible à travers l'historicité des notions de vie, bios et logos. Bios et logos sont des notions historiques, culturellement marquées. Donc, l'enjeu, c'est cela. Alors, dans cette perspective, on peut maintenant, à la fin de ce premier chapitre, comprendre pourquoi il y a eu quand même développement dogmatique de l'anthropologie théologique après Nicée-Constantinople. On ne s'est pas contenté du symbole. L'homme historique et culturellement situé frappe à la porte du symbole, si l'on peut s'exprimer ainsi. Voilà. Vous voyez, ça c'est l'organicité de la vie, l'organicité du symbole. Ce n'est pas un système fermé. Donc, une fois qu'on a parlé de l'homme à l'intérieur du symbole, l'homme effectivement peut frapper à la porte, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit de moi dans ce symbole? Est-ce que je m'y reconnais? Oui et non. Mais alors il faut, pour que je m'y reconnaisse, il faut peut-être que j'interprète. C'est pas l'homme du IVe siècle, c'est l'homme de voilà, actuel. Et à ce moment-là, on a trois étapes. La première étape, c'est celle de Saint-Augustin, ce qu'on appelle le pélagianisme, qui va aboutir au deuxième concile d'Orange. Donc vous avez la bibliographie. Ensuite, c'est la figure de Luther, tout à fait décisive, avec la réaction de Trente et les accords d'aujourd'hui. Et ensuite, les temps modernes, avec Gaudium et Spes. Et évidemment, après Gaudium et Spes, ça fait déjà 50 ans, Gaudium et Spes ne connaissait pas la question écologique, par exemple. Absente, complète. Voilà. Alors, donc, il y a ces étapes. Ces trois étapes paraissent d'abord comme divergences confessionnelles. Ah là, il y a encore une petite précision. Évidemment, Pélage est condamné. Voilà. Différence confessionnelle. C'est plus net d'une autre manière, toute autre manière avec la figure de Luther. Voilà. Évidemment. Luther est Trente. Gaudium et Spes a d'autres adversaires, nous allons le voir. Donc il y a des questions confessionnelles qui sont en jeu, mais en même temps, on est dans une perspective œcuménique, et dans une perspective œcuménique, il faut absolument souligner ce que fait le point, que je fais ici dans mon polycopier. Ces différences concernent l'interprétation du centre, du « pour nous et pour notre salut ». Elle suscite nos efforts œcuméniques, mais, voilà, les problématiques œcuméniques s'inscrivent en réalité dans une problématique plus large, l'histoire culturelle de l'humanité. Et il est impossible aujourd'hui d'isoler le problème œcuménique et de ne pas traiter le soubassement culturel qui est aussi derrière les divisions, les différences confessionnel. L'histoire culturelle de l'humanité signalée par la transformation de la signification des notions comme vie et logos. Donc c'est le problème au fond de l'accès au symbole. L'homme contemporain, l'homme de tous les temps frappe, si je puis dire, à la porte du symbole. Il peut s'y reconnaître à condition qu'on interprète le symbole dans un contexte donné. Et voyez ça explicite, on revient au plan. La première partie du cours va essentiellement porter sur ce que je viens de dire, donc ce point D. Donc on revient à la page 5. La perspective christologique de l'anthropologie théologique. Il y aura d'abord un chapitre biblique, qui est la matrice commune, qui est aussi derrière le symbole, évidemment. Et à partir de cela, on va traverser les différents temps, Pélage et Augustin. J'ai introduit, vous allez voir pour quelles raisons, Anselme de Canterbury, Luther et le Concile de Trente, la Constitution Gaudium et Spes, et une sorte de conclusion qui aborde un peu les modèles du pour nous, comment est traité le pour nous aujourd'hui. Donc ça, c'est la première partie. Bien, donc j'espère d'avoir un peu explicité aujourd'hui la problématique du cours, que vous sentez déjà bien un peu le plan, vous comprenez la structure, hein, l'organicité au fond de ce que je vous propose et les questions finalement qui nous animent, je dirais, aujourd'hui. Alors on a encore un tout petit peu de temps, on va entrer maintenant, au moins pour que vous le pressentiez, dans le deuxième chapitre, la difficile reconnaissance de la proposition chrétienne du salut pour l'homme moderne. Donc cet homme qui éventuellement frappe à la porte du symbole et veut comprendre un peu ce qu'il en est de l'être humain. C'est donc le deuxième versant de l'anthropologie théologique. Après l'homme dans l'histoire du salut, il s'agit donc maintenant du problème de l'historicité de l'homme. repérable dans la transformation de ces concepts vie, que veut dire vie, et logos. Et donc, on entre maintenant dans une contextualisation.
C'est ça qui est le jeu, une anthropologie contextualisée.
Ça nécessite un diagnostic culturel du moment présent. Et le premier texte ecclésial qui a fait cela, c'est Gaudium et Spes précisément. Parce qu'avec Gaudium et Spes 1965, il y a les trois premiers numéros d'introduction, et ensuite vient ce que le texte appelle encore à l'époque un exposé préliminaire, et qui est un diagnostic en 1965 de la condition humaine. Voilà, la condition humaine dans le temps présent. Voilà le titre, la condition humaine. Quelle est la condition humaine? Vous voyez, jusque-là, d'une certaine manière, on est resté quand même ecclésialement dans une conscience un peu atemporelle. Et c'est à partir de ce moment-là, au 65, c'est l'énorme travail du Concile Vatican II, bien sûr préparé, qu'on entre dans une conscience de l'historicité.
Il faut faire un diagnostic culturel. C'est une tâche de grande difficulté, parce qu'il y a évidemment aujourd'hui à repérer le malaise par rapport au discours du salut.
Chacun de nous a un diagnostic un peu pour comprendre ça. Et si on avait un diagnostic bien fait, on avait déjà presque la solution.
Donc c'est pas si simple que ça.
Et donc, je procède ici dans ce chapitre de la manière suivante. Je vais d'abord regarder les difficultés internes au discours chrétien sur le salut. Il y a énormément de difficultés internes, ce qui explique d'ailleurs les débats confessionnels qu'on a eus. C'est pour ça que je parlerai d'Anselme. Et ensuite, il y aura les difficultés venant de l'extérieur.
Alors, les difficultés internes, d'abord.
Il y a des déformations. Nous sommes tous des témoins de ça quand on écoute des prédications. On se demande parfois même, mais qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend? Voilà. Sur le discours du salut,
des déformations. Sur la question du statut du pécheur, voilà.
Et le problème, c'est comment finalement comprendre ces déformations. Alors c'est très difficile pour l'Église, je dirais, catholique, parce qu'évidemment, je dirais, on a une notion d'infaillibilité de l'Église, on a un discours, et Vatican II a lutté avec ça. Quel est le statut pécheur de l'Église? Vous avez dans Unitatis Redintegratio une tentative d'approcher ce problème. Pour la première fois dans le numéro 6, on reconnaît que le discours chrétien peut avoir des problèmes. Qu'on souligne quelque chose tellement... Alors, notre pape François dit ça exactement dans Evangelii Gaudium, que les prédicateurs soulignent des choses tellement... que des points essentiels disparaissent tout d'un coup. Oui. Et que l'ensemble, vous voyez, c'est pour ça que je parle d'organicité, est déséquilibré, complètement déséquilibré.
Donc ça, c'est un énorme problème. Alors, il y a l'ouvrage de Bernard Cesboué, que je vous conseille vivement ici, je l'indique à la page 12.
Vous avez... ici, une notion qu'il introduit dans cet ouvrage-là, vous l'avez aussi dans la bibliographie, Jésus-Christ, unique médiateur du salut, et ce sur la rédemption et le salut, voyez.
Et il y a ce petit chapitre que je vous conseille, qu'il appelle un sombre florilège.
Et il introduit ici un terme important, le terme de déconversion. Déconversion. C'est-à-dire, au cœur même du discours chrétien sur l'homme, dans le symbole, il y a un itinéraire, je l'avais dit tout à fait au début, au point de départ, vous avez donc entre ciel et la terre, le visible et l'invisible, les morts et les vivants, et il y a un itinéraire de salut vers l'accomplissement, et au cœur de cela, il y a la notion de conversion, qu'on ne trouve pas évidemment dans le symbole. la conversion. Et la conversion, c'est pas uniquement une conversion du cœur, mais c'est aussi une conversion de l'intelligence, évidemment, et de la représentation, de nos représentations du mystère du salut, et de nos représentations de l'homme. Et au fond, le symbole retrace cet itinéraire de conversion. Nous allons le voir en détail. Mais quand on dit conversion, on peut aussi comprendre qu'il y a des conversions. Des conversions. Alors, Père Narcisse Boué, le sombre florilège, il donne des exemples à partir du XVIIIe siècle de déconversion de discours. Alors, il part, si vous voulez, je dirais, d'Édouard Hugon, le mystère de la rédemption, c'est un exemple, vous voyez, un texte qui a eu beaucoup d'importance dans l'Église catholique sur la théologie de la rédemption. Un exemple. Pour comprendre à quel degré de souffrance doit aller la satisfaction, c'est pour ça que je parlerai de Saint Anselme, la notion de satisfaction. Pour comprendre à quel degré de souffrance doit aller la satisfaction, considérons ce que fait l'homme par le péché mortel. Il cherche dans le bien périssable une indigne jouissance qu'il aime jusqu'au mépris de Dieu. L'ordre exige donc, voyez, là vous avez le logos. L'ordre exige donc. Qu'est-ce que c'est cet ordre qui exige donc? Voyez, le logos compris ici par Hugon, articulation, que celui qui repart subissent une peine sensible en compensation du plaisir illégitime goûté par le pécheur. Et la douleur subie pour la réparation doit être immense aussi, aller jusqu'au mépris de la nature qui a été choisie pour satisfaire. Voyez, on parle du Christ. En sorte que cette nature soit comme brisée, broyée, réduite comme à néant. Telle est la sublime raison, soulignez ça, le logos, vous voyez, la sublime raison de l'expiation pénale. Donc vous voyez, on n'est plus devant le regardant regarder, vous voyez, dans cette tradition, on est déjà dans la tradition, l'autre tradition que j'ai évoquée au début, vous voyez, l'homme exposé devant un forum, dans un procès, dans un jugement, voilà l'ordre, voyez. Oui. Et on tente d'expliciter ici le pour nous. Hein. Telle est la sublime raison de l'expiation pénale. Voilà pourquoi la satisfaction du Christ devait être aussi un sacrifice extrêmement douloureux, complet, universel. Ce type de discours perverti est possible parce que, voyez le contexte, il ne faut pas condamner ça tout de suite, parce que telle société connaît des discours et des mécanismes d'expiation pénale et prête donc de ce point de vue au christianisme et à son discours du salut un terrain d'accueil. N'oublions pas qu'il y a des sociétés occidentales qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. C'est récent. Donc, voyez, il faut comprendre ce qui est derrière le discours. Mais en même temps, donc voyez, il y a une contextualité qu'il nous faudra comprendre. Mais je dirais donc, le discours chrétien s'est présenté dans une société donnée d'une certaine manière. Vous voyez, il y a question de vie, il y a question de l'ordre, de raison, pour être reçu. Mais en même temps, vous avez ce que Bernard Cesbouet appelle d'une manière très heureuse des conversions. Donc on va voir la prochaine fois quelle est cette déconversion. Comment critiquer ce genre de discours? Voilà. Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Qu'est-ce qui est faux là-dedans? Et vous voyez, si vous repérez ce qui est faux là-dedans, vous comprenez aussi pourquoi, quand la culture a changé, à un moment donné, ce type de discours devient inaudible. Inaudible. Et donc, si c'est ça le discours du mystère chrétien sur l'homme, alors il devient impossible de frapper à la porte du symbole pour comprendre de quoi il s'agit. Voilà, si vous voulez, l'enjeu est d'abord un peu de ce chapitre 2, avant d'entrer dans le chapitre 3, donc qui articule les deux types d'anthropologie profane et théologique, et qui traite déjà un peu du problème de l'universalisation. Donc, à lundi prochain, et bonne semaine, et bon début de votre parcours.